France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
L'écologie n'est plus nulle part, absente des débats, des émissions, de l'information, relayée à l'arrière-plan des préoccupations, alors que tout dans ce domaine indique que la situation empire, que la biodiversité s'effondre, que le réchauffement s'accélère. Et si la philosophie, la littérature même, étaient des voies de contournement pour aborder l'enjeu climatique? Certains auteurs peuvent-ils nous y aider? C'est ce que nous allons tenter de voir au travers d'une œuvre et d'un écrivain, Les Racines du Ciel, de Romain Gary. Comment Gary pense-t-il la question de l'environnement? De quelle façon l'œuvre peut-elle dialoguer avec les pensées actuelles de l'écologie? Pour tenter de le savoir et de le comprendre, un invité ce soir, Igor Kortolitsa, bonsoir. Vous êtes maître de conférences en philosophie à l'université de Picardie Jules Verne, membre junior de l'Institut universitaire de France, et vous faites paraître Romain Gary, de l'humanisme à l'écologie. C'est aux éditions Gallimard. Merci d'être ce soir dans Question du soir. Et je le disais en introduction, si l'on ne parle plus aujourd'hui d'écologie, si on en parle du moins beaucoup moins parce que d'autres sujets d'actualité semblent nous préoccuper, est-ce qu'il vous semble, Igor Kortolitsa, justement que la philosophie, la littérature peuvent être des moyens de contourner ce défi d'actualité et tenter de renouer avec la question écologique aujourd'hui?
Probablement. D'une certaine manière, on pourrait dire que tous les moyens sont bons. Déjà, l'écologie... C'est un champ qui se situe lui-même à la croisée de différentes disciplines, de différents courants. Il y a l'écologie scientifique faite par les écologues, il y a une sensibilité écologique dans la population, il y a l'écologie politique animée par les mouvements écologistes, et puis il y a la pensée écologique, on pourrait dire, qui est investie par la philosophie, le droit, l'économie, la littérature, la sociologie, l'anthropologie. Ouais. Alors, est-ce que la philosophie et la littérature ont un rôle à jouer là-dedans? Certainement. Un rôle particulier, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que bon, on dit parfois que la fiction doit jouer un rôle. Pourquoi? Parce que on n'infléchira pas le cours de l'histoire si on n'invente pas de nouvelles histoires. C'est-à-dire si on n'est pas à même de produire des récits qui sont capables de déjouer, disons, les prophéties décourageantes, voire apocalyptiques, auxquelles nous faisons face.
Des formes de contre-récits, dit-on parfois.
Voilà. Alors, justement, si on s'intéresse au cas plus particulier des Racines du Ciel, la situation est assez drôle. C'est une sorte de jolie mise en abîme, parce que de quoi parle ce roman? L'action se passe en 1953, et le roman raconte les efforts que fait Morel, un Français rescapé des camps, où il était prisonnier politique, au Tchad ou en Afrique équatoriale française, et les efforts que fait Morel pour alerter l'opinion publique mondiale sur le sort des éléphants d'Afrique à un moment où doit se tenir une conférence internationale sur la faune et la flore au Congo belge, à Bukavu. Bon. Alors pourquoi je dis que c'est une belle mise en abîme? C'est parce que les efforts que fait Morel pour alerter l'opinion publique mondiale sont assez dérisoires et on pourrait dire vains. La première partie du roman vise à raconter c'est une pétition qu'il essaie de faire signer dont pas grand monde, qui n'intéresse pas grand monde, dont tout le monde se fout, pardonnez-moi l'expression. Pourquoi? Ben parce que on pourrait dire que certains considèrent que il est un peu fou, il préfère la compagnie des éléphants à celle des êtres humains. D'autres considèrent que ça n'est pas le sujet, on est en 53, le monde se relève difficilement des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine guerre froide avec le risque de conflits atomiques, l'Afrique est en plein dans les luttes de décolonisation. Donc, il semble qu'il y a plus urgent que de parler d'écologie. La situation géopolitique est explosive et lui s'intéresse aux éléphants.
Bon. Si je parlais justement en résonance avec ce que vous dites là de littérature et de philosophie, c'est aussi, et c'est d'ailleurs ce que démontre votre livre, c'est aussi parce que parfois l'écologie se loge là où on ne l'imagine pas. Elle se loge parfois là où on ne la situe pas spontanément, naturellement. Et vous le montrez d'ailleurs à travers Les Racines du Ciel de Romain Gary. Peu de gens pensent qu'il s'agit du premier roman écologique et vous allez nous montrer que c'est bien le cas pourtant.
Alors oui, et en même temps, ce qui fait tout l'intérêt de ce roman, et on pourrait dire son intérêt encore aujourd'hui, à plus de presque 70 ans de distance, c'est que, à certains égards, il anticipe beaucoup de problèmes que nous affrontons encore aujourd'hui. Je veux dire par là qu'il a un caractère très novateur du fait qu'il aborde cette thématique à un moment où, comme je le disais, il ne semble pas que ce soit à l'ordre du jour. Et en même temps, la manière dont il en parle c'est précisément sous cette forme-là, à savoir, mais de quoi s'agit-il ? C'est-à-dire, pourquoi diable est-ce qu'il faudrait que l'on s'intéresse à la protection des animaux et de la nature à un moment où d'autres choses semblent plus importantes ?
Alors justement, pour répondre à cette question, commençons par donner la parole à Romain Gary. Il s'exprimait en 1973 au micro de Patrice Galbaud.
Ça a été le premier livre sur la défense de l'environnement, sur l'écologie, mot qu'on ignorait totalement. Vous savez que c'est un mot qui n'est apparu à la surface qu'il y a une dizaine d'années. J'ai assisté à Paris à un dîner entre des personnalités éminentes de tout Paris. Quelqu'un a prononcé le mot écologie. Et on a fait immédiatement une petite enquête. C'était un milieu de journalistes, d'ailleurs. Pour ne rien vous cacher, c'était à la table de Pierre Lazareff. Sur les 22 personnes présentes, il y en avait deux qui connaissaient le sens du mot écologie. Et ce n'était tout de même pas des gens peu informés. C'était donc le premier coup de canon de ce mot tiré pour la protection du milieu naturel dans lequel nous vivons. Mais je m'empresse d'ailleurs de dire que le milieu naturel, l'environnement, ce n'est pas simplement l'eau, l'air, la nature dans le sens biologique du mot, c'est également la liberté.
Igor Cortolitsa, quand on donne ce titre-là à l'œuvre de Romain Gary, Les Racines du Ciel, quand on le qualifie de premier roman écologiste, c'est quelque chose que Gary lui-même revendiquait.
Alors oui, il le revendiquait, il en était même assez fier. Et dans l'anecdote qu'il relate dans l'extrait qu'on a entendu, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ne semble pas que lui-même ait connu ce mot au moment où il en était question. Parmi les convives, peut-être qu'il le connaissait, mais en tout cas, rien ne le laisse penser. Pourquoi ? Parce que dans l'ensemble du roman, dans tout le roman, dans la version de 1956, le mot « écologie » n'apparaît nulle part. Bon, alors, le mot n'y est pas, la chose y est, puisqu'il est question de protection de la nature, mais il n'en reste pas moins que Gary semble lui-même avoir été en quelque sorte peut-être dépassé, ou en tout cas surpris par la force qu'on a donnée à son roman.
Alors comment Gary parle-t-il d'écologie dans Les Racines du Ciel ? C'est aussi la question qu'on voudrait vous poser. Une thématique, une sous-thématique justement de ce roman, c'est l'anthropocentrisme. Hein. En clair, la façon dont les êtres humains projettent parfois une vision d'eux-mêmes sur des animaux, sur la nature au sens très large. Comment cette question justement de l'anthropocentrisme se trouve au cœur du roman ?
Alors on pourrait dire que pour comprendre comment la question écologique ou le combat, en l'occurrence pour la protection des éléphants, intervient dans le roman, il faut essayer de se resituer, de se replacer dans le contexte justement du roman et en réalité de l'après-guerre en général. En l'occurrence, ce qui anime l'œuvre de Gary après-guerre, c'est précisément une certaine expérience de la guerre ou un traumatisme lié à l'expérience de la guerre et le sentiment que il faut faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et comment faire pour que cela ne se reproduise plus ? C'est le problème en fait qui anime aussi le personnage principal des Racines du Ciel, à savoir Morel. Et le problème, disons, autour duquel vient se structurer ce roman, c'est ce que Gary appelle l'affaire homme. Qu'est-ce que c'est l'affaire homme ? C'est une contradiction interne à la culture ou à la civilisation humaniste européenne, telle que c'est à la fois au nom de l'homme, que l'on a créé de grandes œuvres spirituelles, de grandes œuvres de la culture, et en même temps c'est au nom de l'homme qu'on a justifié la guerre, le fait de tuer d'autres hommes. Et Gary se pose la question de savoir comment faire en sorte que cette affaire homme, d'une certaine manière, parvienne à son terme, ou en tout cas qu'on mette fin à cette affaire interminable, à cette contradiction interne à l'humanisme européen. Bon. Et l'autre terme, ou presque la formule conceptuelle qu'il invente dans Les Racines du Ciel pour réfléchir à cette question, c'est celui de marge humaine. Qu'est-ce que c'est la marge humaine ? La marge humaine, au sens de Gary, c'est cette marge de sécurité ou cette marge de manœuvre qui doit nous préserver de ce retournement de l'idéal, ici l'idéal humaniste, en opération violente, en terreur, cette volonté, on pourrait dire depuis la terreur pendant la Révolution française, de faire entrer de toute force l'idéal dans l'histoire. Bon. Pour éviter que cet idéal ne se prenne pour une vérité absolue, dogmatique, et ne donne lieu à une forme de totalitarisme de l'idéal, il faut, dit Gary, préserver une marge humaine. Et précisément, et c'est là que l'écologie intervient, c'est dans cette marge. Dans cette marge humaine que le combat pour la protection de la nature doit intervenir, c'est-à-dire c'est pour empêcher que les projets idéologiques et politiques ne se referment sur eux-mêmes, pour faire en sorte que dans cette marge, on puisse se battre pour quelque chose d'autre, quelque chose qui excède l'homme et donc au sens, on pourrait dire en un sens plus large, qui dépasse l'anthropocentrisme.
Vous expliquez pratiquement que dans le fond, ce que nous demande Romain Gary, c'est pratiquement de changer de combat. Les combats de la Seconde Guerre mondiale, les combats de la première moitié du XXe siècle, centrés autour de l'idée d'humanisme, doivent être dépassés, peuvent être dépassés grâce à la question écologique et environnementale. C'est peut-être cela aussi que porte Romain Gary et cette notion d'affaire homme.
Oui, et en même temps, c'est l'ambiguïté, ou en tout cas une des ambiguïtés qu'on lui a parfois reproché, c'est de n'avoir pas non plus renoncé tout à fait à cet humanisme. Qui, il faut le dire, dans les années 50, au moment où le roman paraît, et puis encore plus dans la décennie suivante, apparaît de plus en plus dépassé. Bon. Et Gary ne semble pas avoir tout à fait renoncé à cet humanisme, au sens où peut-être que l'écologie serait pour lui un moyen de renouveler cet idéal humaniste. Bon, et peut-être que l'intérêt de ce roman, ou en tout cas la manière dont il nous parle encore aujourd'hui, c'est d'essayer de déjouer cette opposition parfois un peu facile entre l'humanisme d'un côté, l'anthropocentrisme, qui a tendance à accorder à l'homme, à l'espèce humaine, une place éminente, et d'un autre côté, l'écologie, qui voudrait que l'homme, l'espèce humaine, s'efface, ou en tout cas se considère comme une espèce parmi les autres et égal à toutes les autres.
Il y a une autre fracture, Igor Kortolitsa, que ce roman permet peut-être de remettre en cause ou du moins de questionner, c'est la frontière entre la nature et la culture, la frontière entre la nature et la société. Il y a en germe dans Les Racines du Ciel, qui a obtenu, on le rappelle, le prix Goncourt, la remise en cause de cette scission que l'on pense très très souvent, du moins en Occident, absolument naturelle.
Oui, et on pourrait dire que c'est à cet endroit-là que se loge l'écologie. Alors prenons l'exemple concret des éléphants. Lorsque Morel doit s'expliquer sur la raison de son combat en faveur de la protection des éléphants, il dit pourquoi il faut protéger les éléphants ? Parce qu'ils sont encombrants, parce qu'ils nous gênent, parce qu'ils entravent cette soi-disant glorieuse marche en avant du progrès. Et c'est précisément parce que ils entravent cette marche en avant du progrès, parce que ils sont anachroniques et encombrants, qu'il faut s'encombrer d'eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, précisément, il faut que l'écologie conserve, disons, cette position surnuméraire, en tout cas, qu'elle reste un élément perturbateur à l'intérieur de nos projets idéologiques et politiques, précisément parce que elle élargit la sphère de la politique à autre chose que l'humain.
Et ce qui est très très beau aussi avec l'image de l'éléphant, alors chacun peut s'en servir, y projeter ce qu'il souhaite, mais c'est que c'est une figure improductive. C'est un animal, si je puis dire, une fois mis de côté l'ivoire, une fois mis de côté la viande, c'est un animal qui pratiquement, et contrairement à beaucoup d'autres, ne sert à rien. Et c'est pour ça aussi que Morel s'attache peut-être à défendre les éléphants, c'est particulièrement parce qu'ils ne servent à rien.
Ah oui, il tient beaucoup à cette idée qu'ils sont encombrants. Et d'ailleurs, dans l'avant-propos du roman, Gary dit « Ils sont anachroniques et encombrants, comme les droits de l'homme. » Et il le dit, il faut entendre lorsqu'il dit ça, l'écho de son métier, qui est à l'époque celui de porte-parole de la délégation française à l'ONU, et la manière dont les différents leaders politiques s'assoit sur les droits de l'homme, c'est une affaire qui n'est pas nouvelle, et quelque chose qui est tout à fait frappant, qui ne laisse pas de le sidérer. Et il lui semble qu'il y a là une analogie qui vient par ailleurs nourrir cette ambivalence quant à la question de savoir quel est le véritable objet de ce roman et de ce combat. Et c'est Gary lui-même qui disait, les éléphants, hein, comme vous le disiez, sont un test de Rorschach, c'est-à-dire une sorte de surface de projection, chacun projetant sur les éléphants, et plus généralement on pourrait dire sur l'écologie, ses propres préoccupations, certaines idées, certains idéaux qui sont les siens.
Cette scène aussi que je trouve magnifique et une troisième projection peut-être sur ces fameux éléphants avec un personnage dans Les Racines du Ciel qui se trouve emprisonné dans une cellule absolument minuscule et il explique avec un homme qui partage cette cellule le moyen de s'en libérer tout en restant entre ces quatre murs. Le seul et unique moyen de s'en libérer, c'est de penser aux éléphants qui avancent et qui courent à l'extérieur parce qu'ils sont pour Gary, on le devine, un symbole de liberté. D'ailleurs, comme il le disait dans l'extrait qu'on a passé un peu plus tôt, il relie cette idée d'écologie à celle de liberté.
Alors, cette scène, elle est très importante parce que c'est là que, d'une certaine manière, on apprend que tout a commencé, même si en réalité, on apprendra plus tard dans le roman que ça n'est pas exactement ainsi, mais peu importe. Tout a commencé non pas par la vision d'éléphant réel, mais par cette vision mentale d'éléphant courant dans la savane.
De rêve, pratiquement.
Oui, et ajoute le roman, renversant tout sur leur passage. Et c'est là que, d'une certaine manière, on peut comprendre ce que Gary entend par liberté. C'est une conception de la liberté qui est profondément vitaliste. Vitaliste pourquoi ? Parce que c'est une conception de la vie à laquelle rien ne résiste. C'est une conception de la vie telle qu'elle est capable de triompher de tous les obstacles, de renverser tout sur son passage.
C'est la liberté comme force et comme puissance.
Comme force et comme puissance, et on pourrait dire d'abord, peut-être, de manière un peu plus négative, et compte tenu de ce contexte historique qui était relativement sombre, il faut pas l'oublier, sans suggérer que le contexte actuel soit particulièrement joyeux. Mais c'est peut-être, avant d'être une puissance, aussi une force de résistance. Et peut-être ce qui traverse toute l'œuvre de Romain Gary, et sa vie aussi bien, c'est cette idée que la vie, c'est d'abord et avant tout, le refus de capituler. Et ce refus de capituler, il commence peut-être vraiment à s'incarner dans sa vie lorsqu'il décide, en juin 40, de rejoindre le général de Gaulle à Londres parce qu'il refuse la défaite. Et ce refus de la défaite, ce refus de capituler, c'est un refus, une résistance qui a un caractère politique, mais qui a plus profondément un caractère, on pourrait dire, vital. Et il faudrait même aller jusqu'à dire quelque chose d'autre. C'est qu'elle a même un caractère un peu métaphysique. Ça n'est pas si surprenant, hein, la liberté. Hein, quand on parle de liberté, c'est aussi un concept métaphysique. Mais en un sens, qui n'est pas particulièrement mystique, c'est que lorsque Gary dit que la vie est un refus de capituler, une résistance à la mort, c'est aussi une capacité peut-être à triompher de la mort en général. Et c'est peut-être l'horizon le plus étonnant et le plus génial du roman, c'est cette idée que peut-être, dans la vie, il y a quelque chose qui nous permet de triompher de la mort.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Guillaume Blanc, que l'on a reçu ici, à la question du soir, en février dernier. Il est historien. Il parle, lui aussi, de la question absolument centrale des éléphants et de la façon dont Romain Gary les dessine.
Romain Gary, donc dans Les Racines du Ciel, la quatrième de couverture, il le dit que la protection de la nature est une affaire d'hommes rassasiés. Et en fait, dans Les Racines du Ciel, Romain Gary, en fait, il prend son personnage, Morel, un médecin qui fait une croisade pour les éléphants. Et Morel a cette belle phrase où il dit « Moi, tout ce que je demande, c'est une marge pour la vie sauvage, une marge pour les éléphants. » Et là, Romain Gary nous décrit des hordes d'éléphants, des milliers d'éléphants. C'est super. Qu'est-ce que ça nous montre aussi ? Première chose, c'est que la compassion, l'admiration et l'amour pour les éléphants, les Africains en seraient dépourvus. Or, il faut quand même bien retenir une chose. Si nous tous, nous étions en pleine disette ou famine, on n'irait pas chasser un éléphant pour se nourrir. L'éléphant, on le tue. Alors comment on le tue déjà ? Et comment on conserve 2 tonnes de viande pour se nourrir ? Non, les Africaines et les Africains ne tuent pas des éléphants pour se nourrir. Et deuxième chose, ce que Gary nous décrit, les hordes d'éléphants. Au Tchad, en 54, il n'existe plus que 800 éléphants environ. Mais Gary reproduit l'imaginaire de l'Éden africain, une Afrique où il y aurait des éléphants, des zèbres, mais c'est déjà faux.
Votre point de vue, Igor Kortolitsa, justement, sur ce point de vue peut-être un peu trop romanesque, un peu trop exotique, un peu trop occidental aussi, j'allais dire, de la vision de l'éléphant et de l'inscription dans son territoire africain.
Je pense qu'en fait, ce genre d'interprétation est exactement le genre d'interprétation que suscite le roman et qu'il déjoue en même temps. J'en discutais avec un autre Guillaume Blanc, qui a écrit un livre qui s'appelle...
C'est Guillaume Blanc qu'on vient
d'entendre. Oui, pardon, c'est Guillaume Blanc, oui. J'en discutais avec Guillaume Blanc, justement, qui me disait, oui, mais pour moi, Les Racines du Ciel, c'est un roman qui incarne très bien ce qu'il appelle le colonialisme vert. Bon.
C'est le titre de son ouvrage, absolument.
Ouais. Et je lui disais que c'est la lecture la plus courante de ce roman et que c'est une lecture possible. Ça n'est peut-être pas la meilleure lecture parce que à plein d'endroits dans le roman, Morel et puis toute une série de personnages ne cessent de mettre en scène cette vision de l'Afrique comme un immense parc zoologique à l'intention des Occidentaux en mal de nature, comme un Éden africain ou un jardin d'Éden dont l'Occident, les Occidentaux seraient nostalgiques. Bon, mais en réalité, ce que fait Romain Gary, c'est, je crois, beaucoup plus intelligemment et de manière assez intéressante, puisqu'on est on est à peine dans les années 50, anticiper tout ce qui va être dénoncé dans cette, disons, conception néocoloniale de l'environnementalisme. Pourquoi ? Parce que ce que fait Gary dans ce roman, en réalité, en mettant en scène une multiplicité de points de vue qui s'affrontent autour de la question de savoir, mais de quoi l'écologie est-elle le nom ? Pourquoi protéger la nature ? Ce que Gary met en scène, en quelque sorte, c'est une sorte de diagnostic de la manière dont, en fonction de sa position, on investit la question écologique d'idées profondément différentes. Et je ne crois pas du tout que on puisse réduire précisément l'ensemble de ces positions à celle d'un colonialisme vert.
C'est une idée que vous défendez. La polyphonie du roman permet justement d'empêcher son caractère strictement idéologique. C'est un peu d'ailleurs ce que disait Gary lui-même lorsqu'il disait, je le cite, « Si les éléphants tels qu'ils apparaissent dans mon roman étaient quelque chose de parfaitement délimité du point de vue idéologique, mon livre serait un livre à thèse, donc mauvais, donc raté, fin de citation. C'est peut-être ça qu'il faut expliquer, expliciter également. C'est un roman écologiste, certes, mais ce n'est pas un roman à thèse.
Ah, je pense bien au contraire.
Vous n'êtes pas d'accord avec Gary lui-même, alors ?
Ah si, ça n'est pas un roman à thèse. C'est un roman à thèse au pluriel, où une multiplicité de thèses s'affrontent. Et qu'est-ce qui en sort ? C'est un problème. C'est un roman problématique, fondamentalement problématique. Et qui cherche à mettre en scène, peut-être, ce caractère éminemment problématique de l'écologie. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça ? Parce que quand on lit le roman, ce qui est frappant, c'est que celui qui porte ce combat écologique, c'est Morel, et que c'est quelqu'un qui s'explique très mal sur le sens de son combat. Il est en quelque sorte le centre aveugle du roman. Tout le monde s'écharpe sur la question de savoir comment il faudrait comprendre son combat. Certains rejoignent son combat, la majorité plutôt le dénonce. Mais quant à la question de savoir quel est le sens exact de ce combat, ça n'est jamais si évident que cela. Bon, et je crois que ce que met en scène précisément cette structure narrative, c'est quoi ? Ben, c'est que l'écologie est vouée, je crois, à rester quelque chose d'éminemment problématique, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas réduire ou qu'on ne pourrait jamais ramener à une perspective qui permettrait, si vous voulez, en quelque sorte d'absorber toutes les autres.
Je voudrais faire entendre la voix de Philippa Almeida, elle est anthropologue, elle était interrogée dans ce documentaire Arte intitulé « Au Gabon, les racines du ciel » de Romain Gary.
La première fois que j'étais au Gabon et que j'entrais dans la forêt, j'ai senti exactement les sentiments opposés, en fait. Il y a toujours quelque chose de négatif et quelque chose de positif en tout. La chaleur est très violente, l'humidité est très violente, la forêt est très violente. Donc la beauté, la violence et la brutalité sont très liées. Et je crois que les éléphants montrent exactement comment quelque chose tellement belle et tellement fragile peut être d'une force extraordinaire qui arrache tout à son passage. Je crois que c'est exactement la force de la vie. La violence, ce n'est pas forcément négatif. La naissance d'un enfant, c'est quelque chose de très violent. Et pourtant, c'est aussi poétique.
Encore une projection, Igor Kortolitsa, sur ces éléphants qui sont fragiles, mais qui arrachent tout sur leur passage. Dans le fond, à l'instar de la vie, à l'instar de l'existence, comme l'est peut-être une nouvelle approche écologique.
Oui, mais peut-être c'est l'occasion de dire que lorsqu'on progresse dans la lecture du roman, il apparaît que les éléphants ne sont peut-être pas le point de départ de toute cette affaire, de ce combat, puisque Morel raconte lui-même que tout a commencé en réalité peut-être avant, lorsque dans les camps, avant cette vision mentale des éléphants dont on parlait tout à l'heure, les prisonniers politiques, épuisés par le travail, se retrouvent un d'abord, et puis tous les camarades ensuite, à se porter au secours de d'insectes, de hannetons qui sont retournés sur le dos et qui se débattent avec leurs pattes sur le dos. Et en les remettant à l'endroit, ils retrouvent une forme d'énergie, une capacité à résister et à survivre. Et on voit bien que là, le petit hanneton impuissant sur le dos, c'est l'image inverse de ce troupeau d'éléphants qui court dans la savane et qui renverse tout sur son passage. Et pourtant, ça exprime la même chose pour Romain Gary, à savoir la vie comme refus de capituler. Et je crois que c'est là-dedans que l'on trouve, si vous voulez, une commune mesure entre la multiplicité des manifestations de la vie qui sont en jeu dans l'écologie.
Merci beaucoup, Igor Kortolitsa. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Romain Gary, De l'humanisme à l'écologie, c'est aux éditions Gallimard. Et il faut lire évidemment Les Racines du Ciel de Romain Gary. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir.